Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insa Felassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur.
Pour moi, la règle magique avec l'argent qui a débloqué beaucoup, beaucoup de choses, c'est de vraiment non pas voir l'argent comme étant de l'argent, mais de voir l'argent comme un outil et surtout comme un jeu. Un système de points où le but, c'est d'aller chercher le niveau supérieur, comme dans un jeu vidéo, de débloquer le maximum de points possible, de vaincre le big box, de big boss, mais certainement pas de diaboliser et de dramatiser l'argent plus pour ce qu'il n'est vraiment.
Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'ouvrir la saison numéro 4 du podcast Ma Juste Valeur avec une femme que j'adore et qui m'inspire à repousser mes propres limites sur les questions d'argent et de business. Cette femme, c'est Aline Bartoli. Aline, pour moi, c'est la quintessence de la girl boss, une vraie pirate qui n'a peur de rien dans les affaires. Je suis d'autant plus ravie de la recevoir qu'Aline et moi, on se connaît depuis quelques années maintenant et que je suis moi-même intervenue sur son podcast, le célèbre « Je peux pas, j'ai business » pour parler de négociations tarifaires. Du coup, je suis d'autant plus heureuse de lui renvoyer l'invitation aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais vous partager quelques chiffres qui vont vous mettre dans l'ambiance puisqu'Aline Bartoli, c'est l'hôte du podcast « Je peux pas, j'ai business » qui comptabilise plus de 3 millions de téléchargements, et la fondatrice de The Bee Boost, une entreprise de coaching et de formation en ligne à travers laquelle elle a déjà formé plus de 10 000 entrepreneurs à lancer leur projet, développer leur business et construire une activité rentable. C'est vous dire à quel point je suis ravie de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Aline.
Hello Insaf. Dis donc, j'ai même pas l'impression que tu parles de moi, je suis flattée. Je suis trop contente d'être là, trop contente de pouvoir échanger avec toi.
Eh ben, écoute, moi aussi, je suis ravie de t'avoir au micro de Ma Juste Valeur, surtout que ça faisait longtemps que je voulais t'inviter et que voilà, tout se fait dans le bon timing, puisqu'en plus, tu as plein d'actualités en ce moment. Donc voilà, c'est le bon moment. Je suis très contente.
Carrément, trop hâte d'avoir cette discussion.
Aline, tu es une entrepreneure incontournable dans le milieu de l'infoprenariat. Ce n'est plus un secret pour personne, mais toutes mes auditrices et mes auditeurs ne te connaissent pas forcément et ne sont pas forcément aussi familiers avec ce milieu-là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et nous partager ton parcours qui est plutôt atypique puisque tu es passée de blogueuse retoucheuse photo en 2018 à chef de 2 entreprises en 2024.
Alors ouais, je vais me représenter avec grand plaisir et encore une fois, un immense merci de m'accueillir. Moi, j'aime bien me définir et me présenter en disant que j'ai 3 casquettes. La première casquette, c'est celle de coach business. Donc en fait, mon vrai métier, mon diplôme, ma formation, c'est celle de coach, donc coach certifié. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs et des chefs d'entreprise sur le développement de leur activité avec tout ce que ça comprend, que ce soit le marketing, la com, la vente, l'état d'esprit. Bref, voilà, les aider un petit peu à mettre en place le business de leur rêve. Donc ça, c'est mon métier, le cœur. Ma seconde casquette, c'est celle de dirigeante et fondatrice de The Bee Boost. Et je distingue bien les deux parce qu'aujourd'hui, The Bee Boost, c'est devenu une entreprise qui tourne à 7 chiffres à l'année. Il y a des salariés, il y a des freelances, il y a du management, il y a des projets. Donc ça, c'est aussi presque tout un autre boulot à part, en plus de mon cœur de métier qui est le coaching business. Et ma troisième casquette, tu en as très bien parlé, tu l'as très bien présenté, c'est celle de hôte, puisque j'ai fondé et que j'anime 2 fois par semaine le podcast qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business », dans lequel je délivre gratuitement toutes mes astuces, stratégies, conseils, prises de conscience, tips, etc. pour développer un business rentable, qu'on soit babypreneur, comme je le dis, c'est-à-dire qu'on vienne de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou entrepreneur plus aguerri. Donc ça, c'est un petit peu pour, on va dire, l'image globale d'aujourd'hui. Et comme tu l'as dit aussi, je suis issue du milieu du freelancing. Alors, je n'ai jamais été salariée. Pour tout te dire, en fait, j'étais salariée pendant 6 mois. J'étais caissière à Monoprix. Et ces 6 mois ont servi à mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir me lancer en tant que freelance. Donc, j'avais déjà cette volonté-là de base. Et ensuite, une fois que ça a été fait, je me suis lancée comme retoucheuse photo. Donc, je bossais en binôme avec des photographes. J'étais spécialisée dans le milieu de la mode, du luxe, de la beauté. Donc, je bossais avec des Yves Saint Laurent, des Chanel, des Louis Vuitton, L'Occitane en Provence. J'ai fait du Yves Rocher aussi. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de toutes ces grandes marques-là. Et mon taf, en fait, c'était d'être sur Photoshop et de retoucher les photos. Des fois, en même temps que le shoot était réalisé, je pourrais, en live, ou des fois de manière asynchrone ensuite. Ça a été mon métier pendant 8 ans. Et ça se passait très bien, très très bien, vraiment. J'étais entre 8 et 10 000 euros par mois. J'étais bookée 3-4 mois à l'avance. Donc c'était vraiment une carrière qui cartonnait. Et j'avais tous mes potes freelance, dans la photo, mais pas que, qui me demandaient, mais comment tu fais, Aline, pour gérer ton business, pour trouver des clients, pour piloter comme ça? Moi, j'y arrive pas, j'ai des doutes. Sachant qu'à l'époque, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, hein, pas plus que ça. C'était que du bouche à oreille et de la prospection de ma part. Et en fait, du coup, j'ai créé un blog sur lequel j'ai commencé à mettre tous mes conseils. Parce que j'étais en mode, non seulement ça m'évitera moi de me répéter constamment d'un pote à l'autre, mais en plus si ça peut servir à d'autres personnes, pourquoi pas? J'étais très très ignorante à l'époque, limite j'étais en train de créer un skyblog quoi. Et en fait il se trouve que le blog a explosé, alors aussi parce que du coup je me suis un peu prise au jeu et que j'ai essayé de faire un peu de marketing derrière, mais très très vite le blog a explosé en fait en 2-3 mois. Je suis passée à plus de 15 000 vues par mois, 15 000 pages vues sur mon site, alors que j'y connaissais rien et je me suis prise un petit peu au jeu en me disant, bah dis donc, je savais pas qu'on pouvait encore bloguer en 2018-2019, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à me renseigner sur, en tapant sur Google, bah, comment faire connaître encore plus un blog. Puis très vite, j'ai découvert ce qu'on appelle l'industrie de l'infoprenariat, c'est-à-dire de la vente de formation et d'information. Donc le fait de monétiser ses connaissances. Et donc j'ai continué à explorer cette voie-là et j'ai vu qu'il y avait des gens dont c'était le métier, en fait, de former, de créer de l'accompagnement en ligne. C'est là où j'ai découvert le métier de coach aussi. Je me suis dit, mais ça a l'air trop bien. Je me suis formée en tant que coach. J'ai suivi une formation au Québec auprès d'une école spécialisée sur le coaching d'entrepreneurs et de leaders. Et après, je me suis mise à mon compte. J'ai laissé de côté le freelancing, même si j'étais toujours passionnée par mon boulot. Je me suis dit, je tente l'aventure. Je vais essayer de passer coach à temps plein. Et ben voilà, aujourd'hui.
C'est un super parcours, c'est d'autant plus un parcours intéressant que tu fais partie de ces gens, Aline, qui n'ont jamais été salariés. Donc, c'est hyper
Six
intéressant.
mois, 6 mois.
Ouais, mais en fait, ouais, c'est un job saisonnier, quoi. C'est
Oui,
comme
c'est
les jobs
ça.
étudiants que tu prends en saison pour te payer des fringues, tes études, enfin voilà, les à côté quand tu es étudiant en
En tout
réalité.
cas, j'ai jamais voulu être salarié. Ça, c'est pour le coup, c'est une vérité.
T'as jamais voulu être salarié parce que et pourquoi? Alors, ça serait intéressant de savoir.
Ben parce que. Enfin, la raison pour moi est évidente, mais j'entends qu'elle ne l'est pas. En fait, j'ai grandi dans une famille où j'avais une mère salariée et un père entrepreneur. Et en fait, on nous a toujours laissé le choix. On est 4 enfants. D'ailleurs, on est 2 entrepreneurs et 2 salariés dans le lot. Et en fait, moi, toute ma vie, j'ai dit, quand je vais être plus grande, tu sais, la maîtresse, elle te demande à l'école, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Et moi, je disais, je vais être chef d'entreprise comme mon papa. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ça n'avait aucun sens. Je ne savais pas quelle entreprise. Mais dans ma tête, je ne me suis jamais vue salariée. Ça n'a même pas été une question. À aucun moment dans ma vie, quoi.
Et à ce moment-là, est-ce que tu liais le fait d'être chef d'entreprise avec la richesse ou pas du tout? Ou c'était vraiment parce que ça instinctivement, ça t'attirait et tu faisais pas de lien encore avec l'argent? Ou c'était un choix conscientisé à l'époque déjà?
Non, c'était, je faisais le lien avec la liberté, plus que la
Ah,
richesse.
intéressant. Intéressant. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ton parcours, Aline, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'infoprenariat, c'est une vraie carrière. Donc, il y a plein de gens qui n'ont, voilà, qui sont encore des lapins de 6 jours, qui ont encore du lait qui sort du nez et qui voilà, qui disent qu'ils sont coachs parce qu'ils ont passé ou ils ont fait une formation de 6 mois, 9 mois quelque part qui leur dit tu peux être coach business. Et moi, je suis convaincue qu'un coach, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience. Alors, l'expérience, elle ne se compte pas forcément dans les années. Mais en tout cas, enfin, pour moi, c'est un peu compliqué de dire que tu vas m'aider dans mon business si toi, tu ne l'as jamais fait en fait. Et toi, en fait, avant de te lancer, tu avais déjà, enfin, par 2 fois fait tes preuves, puisque tu l'as fait déjà un quand tu étais retoucheuse photo. Même si ce n'était pas de l'infoprenariat, ben, mine de rien, tu monétisais tes compétences, tes connaissances, et tu savais monter ton business de solopreneur à l'époque, hein, si on utilise le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui. Tu l'as fait aussi avec le blog, même si à l'époque, enfin, voilà, un blog, c'est plus de la pub, j'imagine, que monétiser vraiment ses connaissances. Mais enfin, toi, quand tu as décidé d'être coach et que tu t'es formé au coaching et qu'ensuite t'as sorti, enfin t'as monté ton entreprise et t'as sorti tes formations. Tu étais solide sur tes connaissances, tu formais vraiment les gens en partant pas de nulle part ou d'un modèle qu'on t'avait partagé, mais vraiment d'un modèle que tu avais créé, que tu avais expérimenté et que tu avais affiné ou affûté avec tes compétences de coaching. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Debiboost a eu autant de succès. C'est qu'en fait, enfin, il y a de l'expérience derrière. Et je pense que c'est aussi important de le dire aux gens. Parce que, tu vois, récemment, j'avais lu un article qui s'appelle Let me teach you how to be an overnight success. En français, c'est je vais te dire comment, je vais t'apprendre comment devenir un succès du jour au lendemain. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es jamais un succès du jour au lendemain. C'est en général la somme de beaucoup d'expérience, de travail, même si ce n'est pas dans le domaine exact dans lequel tu évolues aujourd'hui. C'est quand même beaucoup. Beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. T'es d'accord avec ça ou pas?
Je suis totalement d'accord avec ça, surtout que toutes les personnes qui étaient des overnight success, donc on a vu exploser du jour au lendemain, avec qui j'ai pu échanger, en fait, tu te rends compte que par exemple, ça fait 10 ans qu'elles sont sur les réseaux sociaux, peut-être dans d'autres thématiques, dans d'autres sujets, et que finalement, à un moment, elles ont trouvé le sujet. Et le momentum qui ont fait qu'on a l'impression de les avoir vues de partout du jour au lendemain, mais en fait, ça fait des années qu'elles sont là et qu'elles travaillent dans l'ombre et qu'un jour, pouf, ça a pété. Donc, je suis d'accord avec toi que généralement, les succès fulgurants en sont rarement, très très rarement.
Et du coup, qu'est-ce que toi tu dis à tes... Parce que tu as énormément d'élèves, Aline, mais qu'est-ce que tu dis typiquement à tes élèves ou aux gens qui vont nous écouter aujourd'hui et qui se disent, ben moi, j'ai pas d'expérience, mais ou j'ai l'expérience que j'ai et j'ai envie d'être un succès fulgurant, un overnight success. Tu leur donnes quoi? Parce que je pense que tu dois en avoir, hein, parce que tu vois,
Oui.
on veut tous avoir beaucoup de succès. Surtout toi, tes élèves, ils viennent vers toi justement pour avoir du succès. Et tu leur dis quoi, toi, quand ils te disent, je veux que ça arrive tout de suite maintenant?
Bah, il y a plusieurs discours, mais le premier, c'est pourquoi? Genre, qu'est-ce que le fait d'avoir un succès là maintenant tout de suite va t'apporter de plus que tu n'as pas déjà? Qu'est-ce que tu vas pouvoir vivre de différent dans ta vie quand tu seras successful en fonction de ce que tu mets derrière ce mot-là, que tu ne vis pas mat là maintenant aujourd'hui. Et en fait, tu vas creuser un petit peu, donc là c'est la coach qui parle, du coup
Ouais,
tu vas
ouais,
creuser
ouais.
un petit peu ce qu'il y a derrière, et généralement tu te rends compte que bah, je veux pas du succès, mais je veux la reconnaissance et l'amour des gens. Ou je veux pas du succès, mais je veux me sentir en sécurité financière. Ou je veux pas de succès, mais je veux prouver à ma famille, donc on rejoint un peu la reconnaissance, que je peux y arriver. Ou je veux pas de succès, mais je veux me construire une vie qui me va vraiment parce que je me reconnais pas dans les codes de salariat. Donc en fait, c'est rarement le succès pour le succès. On est tous, mais moi la première, hein, animés par des raisons beaucoup plus deep et des besoins beaucoup plus deep. Et en fait, quand on arrive à mettre le doigt dessus, on sait déjà comment s'y prendre, vers quoi s'orienter. Mais surtout, parfois, ça nous permet aussi de nous rendre compte, et j'ai ce cas régulièrement, que finalement, on ne veut pas de succès.
Ouais, on veut l'autre chose, ouais.
On veut ce qu'il y a plus au fond que ça.
Ouais, je suis complètement d'accord, mais c'est ce que je dis aussi, tu vois, moi, dans mes coachings, mes formations et tout, je dis toujours que l'argent, en fait, ça règle les problèmes qui sont immédiats. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, tu penses qu'obtenir une augmentation de rémunération ou de salaire, ça va te permettre de régler tous tes problèmes. Et en fait, une fois que tu l'as, tu es content, 6 mois, 3 mois. Puis une fois que tu vois l'enthousiasme qui est arrivé avec cette augmentation-là passe, et ce niveau d'argent devient ton nouveau référentiel, bah, en réalité, bah, en fait, tu reviens à ton problème initial qui t'a fait demander une augmentation. Est-ce que c'est une mobilité interne? Est-ce que c'est changer de poste? Est-ce que c'est changer de pays? Est-ce que c'est passer d'une petite entreprise à une grande internationale? Enfin, en fait, l'argent n'est jamais vraiment le sujet en réalité. Le sujet est toujours l'argent, c'est un peu
C'est la
le
partie émergée de l'iceberg, en fait.
exactement, exactement. Un peu comme le masque, tu vois. Et après, quand tu retires le masque, tu vois les raisons profondes. Aline, comme tu le sais, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'essayer d'empouvoir les femmes à s'autoriser à gagner de l'argent et leur donner les ailes pour se déployer sur ce sujet. Et moi, après quelques années de coaching de femmes sur ces questions-là d'argent, de salaire, de tarifs, etc., je me suis aperçue que chez les femmes, on observe que globalement, elles ne sont pas vraiment à l'aise avec la question et les notions d'ambition et d'argent. En général, elles ont peur de ne pas assumer toutes les connotations sociales qui vont avec. Et du coup, elles sont nombreuses à préférer soit abandonner leurs rêves, soit abandonner leur ambition financière, plutôt que de se sentir ostracisées par leur famille, par leurs amis ou par les autres femmes, parce qu'elles ne sont pas prêtes à supporter le regard que les autres leur enverront quand elles deviendront cette femme ou quand elles seront cette femme qui gagne autant d'argent. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as observé aussi chez tes clientes féminines dans ta pratique du coaching business? Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé chez toi? Et si oui, comment as-tu réussi à t'en défaire, notamment de cette construction mentale qui nous fait croire que femme plus argent est égal, je dirais, bon, pour rester poli, Dracula. Pour pas dire une salope qui est prête à tout pour et surtout écraser les autres pour faire de la thune.
Merci, non mais merci de le dire, faut dire des termes. C'est vrai que c'est hyper intéressant ton discours et ton approche, et je trouve qu'effectivement, quand on est une femme dans la société d'aujourd'hui, le discours est hyper, on se perd, quoi. On est perdu, on sait plus ce qu'on doit faire parce qu'on doit être forte et en même temps on doit être douce. On doit être là présente et en même temps d'être dans l'énergie féminine et la sensualité. On doit être féminine et attirante et en même temps pas provocante et pas vulgaire. On doit réussir, mais pas trop. On doit gagner de l'argent, mais pas trop. On doit parler, mais pas trop fort. On doit être indépendante, mais surtout savoir où est notre place. On doit dépasser, on doit montrer qu'on réussit et inspirer l'idée, mais pas trop dépasser, être le clou qui dépasse, parce que sinon, oh là là, c'est... Et en fait, non seulement c'est très compliqué de s'y retrouver dans ce discours-là, mais en plus, chaque référentiel va changer en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc, le premier discours, tu vois, tu disais femme plus argent égale Dracula, c'est de dire, OK, femme plus argent égale Dracula, pour qui? Qui dit ça, tu vois? Parce qu'en fonction de qui est la personne qui va dire ça, moi, je vais choisir de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Et rarement, enfin, je ne veux pas rentrer dans des discours misogynes ou très caricaturaux, mais généralement, c'est pas toujours les femmes qui disent ça. C'est pas une femme qui va dire en regardant une autre femme, femme plus argent égale Dracula. Elle dira peut-être d'autres choses, mais elle dira pas ça. Donc, on va déjà relativiser tout ça en disant que de toute façon, on est dans une société aujourd'hui, mais les hommes comme les femmes, on sera toujours le trop de quelqu'un et le pas assez de quelqu'un d'autre. Donc, déjà, quand on comprend ça, on comprend que le seul référentiel qui compte vraiment, c'est le nôtre, celui de notre famille ou de nos proches ou de notre partenaire, si vraiment on a des gens proches et que ça nous tient à cœur pour plein d'autres raisons, mais c'est notre propre référentiel. Donc on va d'abord regarder nous ce qui se passe en nous, c'est quoi notre relation à l'argent et c'est quoi notre vision des gens qui ont l'argent. Parce que bien souvent, les femmes qui disent j'ai peur de gagner de l'argent ou des choses comme ça, c'est aussi les femmes qui disent femme plus argent égale Dracula.
Complètement d'accord avec toi. Et je suis d'autant plus d'accord avec toi que, en fait, je ne sais pas si toi aussi tu as observé ça, mais moi, en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas le choix. Soit j'acceptais d'être Cruella, Dracula, donc cette pétasse sans cœur qui est prête à tout pour défendre ses intérêts. Soit j'accepte d'être princesse Sarah et du coup, je suis la serpillière de tout le monde. Et en fait, moi, je n'avais pas envie d'être la serpillière de tout le monde. Enfin, c'était juste impossible pour moi. Mais en fait, franchement, je ne suis pas une pétasse sans cœur et je n'ai pas envie de le devenir. Et du coup, je me disais, mais pourquoi il n'y a pas une troisième voie, quoi? Une voie où tu es une femme qui t'assume et qui défend tes intérêts, mais qui sait aussi qu'il y a enfin, au grand cœur, quoi. Et je l'ai découvert petit à petit. J'ai découvert que même si la société, elle nous renvoyait que ces deux chemins à suivre, bah, évidemment, toi, tu pouvais suivre ton chemin personnel. Ceci dit, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que il y a quand même beaucoup de femmes qui sont très sévères avec d'autres femmes. Et en général, tu sais, de la même manière qu'on dit que les femmes s'habillent pour les autres femmes. On ne s'habille pas pour les hommes, soit on s'habille pour nous, soit on veut, voilà, épater la gente féminine. On veut qu'elle nous dise, ah, bah, tu as du style, tu as de l'élégance, etc. Enfin, de la même manière que je pense que ce qui nous fait le plus de mal, ce n'est pas forcément le regard des hommes, c'est le regard des femmes. Quand tu as un groupe de copines qui te dit que, j'imagine, hein, mais bon, je l'ai vécu notamment avec mes clientes, même moi, je l'ai vécu avec mon ancien groupe d'amis qui avait l'impression que quand tu gagnais trop d'argent, ben, forcément, tu étais passé du côté obscur de la force, avec des termes qui sont très durs. Donc, effectivement, je pense que c'est un peu dur voilà, de sortir du lot et voilà, suivre ton propre chemin. En tout cas, ça vaut. Enfin, tu as besoin d'avoir énormément de caractère. Qu'est-ce que tu en penses? Énormément de caractère, je sais pas, mais en tout cas, à un moment donné, tu es obligé de stand up pour toi-même et de dire, OK, bon, bah, je fais quoi? Est-ce que j'écoute les autres et du coup, je me laisse les réduire, me réduire et décider de ma vie ou je fais ce que je veux et au final, fuck.
Ouais, il y a plein de choses dans ce que tu dis, il y a plein de nuances que j'ai envie d'explorer, etc. Je pense qu'un bon point de départ, ça pourrait être de se dire, le problème dans tout ce débat entre femme et argent, c'est toute la symbolique et tout le sens qu'on met derrière l'argent. Qui pour moi, c'est too much. C'est genre la vision et la relation que les gens ont à l'argent aujourd'hui, c'est too much. Enfin, il y a quand même un métier qui s'est développé qui s'appelle le money coach. On a besoin de coach pour nous faire travailler notre relation à l'argent. Si demain, INSAF, je vais chez toi et que je pose une boîte de sardines dans ton placard, ça va pas te changer. Ça va te faire ni chaud ni froid. Tu vas peut-être même pas t'en rendre compte parce que c'est une boîte de sardines, c'est neutre. Et en fait, je pense qu'on devrait tous avoir cette relation neutre à l'argent, ni le diaboliser, ni l'encenser, ni trop y penser, ni ne pas y penser du tout, mais vraiment considérer Désolé, hein, mais un paquet de coquillettes, de la même manière que tu considérais 1 million d'euros dans ton compte en banque, tu sais qu'il est là, tu t'en serviras en temps voulu, c'est cool, t'es content qu'il existe, mais c'est tout, quoi. Et je pense qu'il y a là, c'est là aussi où beaucoup de choses et d'idées reçues et de jugements et de regards qu'on porte sur soi et sur les autres et de peur, ça se développe parce qu'en fait, on a une relation à l'argent qui est complètement, mais disproportionnée par rapport à ce que c'est vraiment l'argent, c'est-à-dire un outil, un paquet de pâtes, quoi.
Est-ce que tu penses que c'est ça vraiment le nœud du problème? Parce que, tu vois, c'est assez intéressant. Je vais encore mettre ça en perspective avec l'une de mes clientes que j'adore, que j'embrasse et que je vais saluer, et qui s'appelle Carole, qui va se reconnaître, qui à un moment donné, lors de son coaching, me disait, Insav, je ne veux pas gagner trop d'argent parce que j'ai peur de perdre mes amis. C'est une réalité, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils se rendent compte que tu gagnes beaucoup d'argent, ils font ce raccourci, tu vois, mental en se disant, elle gagne beaucoup plus d'argent que moi, donc elle est mieux que moi. Je ne veux pas côtoyer des gens qui sont mieux que moi parce que j'ai ce sentiment d'infériorité et donc je deviens méchant ou je les zappe. J'ai genre méchant jusqu'à ce qu'elle me zappe ou je les zappe. Et je pense franchement, Aline, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de gens qui se limitent parce qu'ils ont peur de perdre leurs amis
Ou
ou
leur
de faire,
famille
ou leur
ou
famille
de changer.
ou de changer. Et en réalité, tu te rends compte que peut-être que avoir 1 million sur mon compte, je peux le traiter comme une boîte de sardines. Mais est-ce que tu traites un bracelet Cartier de la même manière qu'une boîte de sardines? Et est-ce que ça renvoie la même chose socialement parlant? Je suis pas sûre, tu vois.
Non, c'est vrai que ce que j'ai énuméré, c'est la théorie, mais c'est pas la pratique. Parce que si tu suis ma théorie, il faudrait que tout le monde fasse un reset sur sa relation à l'argent, et ça, c'est pas possible. Donc, après, dans la pratique, comment ça se passe? En fait, il y a, pour moi, il y a deux prismes, il y a deux biais. Il y a la relation que les autres ont à l'argent, qui font qu'ils vont te juger ou pas, d'en avoir beaucoup ou pas beaucoup, etc. Mais ça, tu as du mal à contrôler ça. Mais il y a aussi la relation que toi, tu as à l'argent et l'effet miroir qui peut se créer par rapport à ça. Tu vois, moi, je pourrais dire, bah, j'ai peur de gagner trop d'argent, j'ai peur d'en gagner encore plus que ce que je gagne aujourd'hui, parce que j'ai peur de perdre mes amis et que ils me jugent à cause de ça. Mais ça se trouve, ils ne vont jamais me juger. Ça se trouve, ils vont être contents. Mais comme moi, j'ai l'impression de devenir une mauvaise personne si je gagne encore plus d'argent, je fais un effet miroir sur le regard des autres en pensant qu'ils vont penser ça de moi. Et ça fonctionne pour l'argent, mais pour plein d'autres choses. Donc, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui qu'il y a des gens qui jugent, qui ont peur de ça et qui rejettent par rapport à ça? Oui, c'est clair, on le voit tous les jours. J'ai eu la chance, je pense, de ne pas le vivre. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment été jarter d'un groupe de potes où on m'a dit on te jarte parce que tu gagnes trop d'argent, tu vois, j'ai pas vraiment la sensation d'avoir vécu ça. Après, là où je me questionne aussi, parce que moi j'ai aussi une vraie sensibilité au fait de responsabiliser les gens, c'est si demain, toi, Insaf, tu deviens multimilliardaire, je deviens multimilliardaire, ou Carole devient multimilliardaire, et qu'elle est jartée par son groupe de potes, c'est qu'elle leur a dit, et que quelque part son comportement a peut-être changé aussi. Parce que est-ce que juste l'info que je gagne beaucoup d'argent, ça change vraiment la relation, une vraie relation amicale? Ou est-ce que derrière, il y a eu un changement de comportement? Ou un nouveau discours? Ou un changement de mindset? Tu vois, c'est une vraie question que je me pose.
En fait, tu vois, je me dis, pour l'avoir vécu, hein, je pense pas que. En fait, tu dis jamais, je gagne beaucoup d'argent, et les gens te disent jamais, ah bah puisque maintenant tu gagnes beaucoup d'argent, je ne veux plus te parler. En
Bah
fait,
oui,
ça
c'est
se passe
ça.
jamais comme ça, tu vois. En général, le fait, enfin, en général, les gens observent que ton niveau de vie a augmenté, et comme ton niveau de vie a augmenté, toi, tu as peut-être, surtout si tu es une Tunisienne comme moi, des signes extérieurs de richesse. Donc, autant te dire que moi, les bracelets en or, voilà, hein. Je suis une vraie méditerranéenne. Plus ça brille, plus j'aime. Mais en tout cas, voilà, en fait, pour terminer le cheminement, en fait, les gens observent que ton niveau de vie a augmenté. Ils commencent à développer de l'envie, de la jalousie. Et derrière, en fait, c'est toi, tu observes cette jalousie, cette envie. Et en fait, ça casse un truc dans l'amitié. En général, je pense que. Et justement, je voulais t'en parler parce que. Toi, tu es vraiment une entrepreneur qui joue dans un autre univers, tu vois. Tu es une entrepreneur qui fait des chiffres d'affaires à 7 chiffres. Donc, même si toi, personnellement, tu n'es pas millionnaire, enfin, tu génères quand même des millions. Tu vois ce que je veux dire? Après, ce que tu te reverses ou pas, c'est différent. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu joues avec des millions. Donc, c'est un autre step déjà, c'est un autre univers. Pour terminer sur ma question, au final, ce n'est pas forcément toi qui changes. Pas forcément ton comportement, c'est
Le
aussi
regard des
la manière dont
autres.
les gens te perçoivent. Et ils te perçoivent avec tout ce fil de jalousie, d'envie qu'ils peuvent générer en disant, mais pourquoi moi je fais ce qu'elle fait, mais j'ai pas la même chose et j'y arrive pas. Tu vois, c'est comme si demain, moi, je commençais à t'en vouloir, Aline, parce que je disais, mais attends, je comprends pas, je fais exactement ce qu'elle fait, Aline, mais moi, je fais pas cette chiffre. Pourquoi c'est pas normal? Et au lieu de travailler sur ce truc-là, je commençais à créer du ressentiment envers toi, comme si, en fait, tu m'avais enlevé un truc qui me revenait, alors que tu m'as rien enlevé. Je pense qu'en général, c'est ça qui se passe dans la tête des gens, et c'est ça que les gens ont peur quand tu touches à l'argent.
C'est vrai, c'est cool que tu prennes l'exemple parce que ça me permet de mieux voir aussi ce que tu dis. Après, il y a toute une dimension, tu contrôles pas ce que les gens peuvent penser, ressentir. Et c'est comme tu dis, tu peux être princesse Sarah et faire la carpette et jamais t'autoriser à en gagner de l'argent par peur de peut-être potentiellement créer un problème et frustrer peut-être quelques égos. Ou alors tu peux juste dire, de toute façon, quoi que je fasse, il y a des gens qui seront pas contents. Il y a des gens qui sont pas contents quand on fait rien. Il y a des gens qui sont pas contents quand on fait trop. Les gens qui sont contents de nous à un certain moment, bah, d'autres le seront pas. Donc au bout d'un moment, on n'est pas là pour faire plaisir aux autres, mais pour se faire plaisir à soi. Et je pense qu'il faut que on accepte de dire que quand on gagne de l'argent, ça nous fait évoluer en tant que personne, d'un point de vue extérieur, comme tu disais, signe de richesse extérieure, etc. Mais aussi d'un point de vue intérieur. Parce que plus tu gagnes d'argent, je trouve, plus ça révèle certains traits de personnalité qui sont là chez toi, dans le meilleur ou dans le pire, et ou dans le pire. Et plus aussi, ça te construit une espèce de respect de toi-même, de conscience de la valeur de ton temps, de la valeur de ta vie, de la qualité des moments que tu as envie de passer, où est-ce que tu les passes, avec qui tu les passes, et forcément, ça change ton attitude. Et donc là, tu ne peux pas en vouloir, même si c'est mal exprimé, et même si c'est méchant et blessant, tu ne peux pas en vouloir aux gens de te dire t'as changé, parce que oui, t'as changé. Est-ce
Ouais,
que
ouais.
tu vois où je veux en venir?
Ouais, je vois totalement où tu veux en venir. Et c'est vrai, hein, comme quoi, au final, c'est un tango, ça se danse à deux personnes et tu peux jamais renvoyer la faute qu'à une seule personne. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, ma question, elle sera un peu intime et je vais te la poser straightforward, hein. Est-ce que toi, dans ton évolution, et je pense que oui, un petit peu quand même, hein, mais bon, tu vas me le dire. Toi, dans ton évolution, est-ce que tu as ressenti un changement dans la manière dont les gens se comportaient avec toi, te percevaient, etc.? Est-ce que d'un coup, il y a plein de gens qui t'ont trouvé super cool et qui ont voulu devenir tes amis à partir du moment où tu as commencé à avoir du succès? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur du succès parce qu'ils ont peur de tous les problèmes que ça va leur attirer, notamment tous les pics assiettes qui se mettent à tourner autour de toi. Est-ce que, un, tu en as rencontré et deux, c'est quoi ta technique pour les tenir à distance?
C'est hyper intéressant comme question parce que oui, alors c'est pas tant une question d'argent du coup, c'est plus une question de visibilité parce qu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai une communauté sur les réseaux sociaux, j'ai des personnes qui me suivent, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive de temps en temps d'être reconnue dans la rue quand je me balade ou des choses comme ça. Donc oui, effectivement, il y a plein de gens qui t'écrivent, qui te disent je veux prendre un café avec toi, je t'ai reconnue dans la rue et qui veulent être pote avec toi et tout. Mais je l'ai jamais senti de manière malveillante ou de manière intéressée. Enfin, je sais pas si c'est moi qui vis dans un monde de bisounours. Ou si au contraire, je sais bien choisir mes amitiés, peut-être, mais j'ai jamais senti quelqu'un qui s'approchait trop près de moi en mode pique assiette. C'est soit directement dès le début, en fait, je mets mes distances et que t'as même pas moyen de m'approcher. Peut-être que j'en ai dans mon entourage, mais je m'en suis jamais rendu compte, on va savoir. Mais en fait, je vois exactement ce que tu veux dire. J'ai pas la sensation de l'avoir vécu.
Du coup, j'ai encore plein d'autres questions si tu savais. Mais je vais quand même te poser cette question-là. Cette question, elle est un peu intime, comme on parle des pics assiettes, etc., etc. En tout cas, pas des pics assiettes forcément, mais bon, des gens qui en veulent un petit peu. Tu m'as compris,
Qui
du
sont un
coup.
peu intéressés, en tout cas, qui viennent
Voilà.
avec une idée en tête.
Voilà. Tu m'auras compris. J'essayais de trouver, merci de m'aider, j'essayais de trouver une manière élégante de le dire pour rester élégante, en fait. J'ai cru comprendre que tu étais célibataire, Aline. Est-ce que c'est toujours le cas?
C'est compliqué. Non, oui, c'est toujours le cas.
Ça me fait penser à l'époque de Facebook où tu mettais vert quand tu étais
C'est
célibataire,
ça.
it's complicated, c'était orange et quand tu étais prise, c'était rouge. Tu sais, les light parties, j'avais beaucoup de ça à l'époque.
Oui. Non, non, non. Je suis toujours
Soirée comme ça.
célibataire à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode de podcast.
Très bien. Voilà, ce n'est pas parce que je suis intéressée par ton célibat de manière personnelle, quoique, pourquoi pas. Non, non, trêve de plaisanterie. Je te pose cette question, Aline, parce que j'étais intéressée. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont puissantes financièrement, qui tombent dans l'écueil de se retrouver un petit peu seules dans leur vie personnelle. Et en tout cas, tu entends beaucoup ce retour-là. Tu sais, ce fameux adage qui dit femme heureuse en affaires, malheureuse en amour, etc., etc. Et je m'interrogeais, j'étais curieuse de savoir comment une femme qui gère deux entreprises, un podcast, voilà, plusieurs business, qui a plusieurs casquettes, gère sa vie amoureuse et est-ce qu'elle a le sentiment que cette puissance financière qu'elle dégage, même malgré elle, est-ce qu'elle trouve que c'est un frein à son épanouissement amoureux.
J'ai tellement de choses à dire là-dessus, Insaf. C'était mon
Dis-moi,
combat.
dis-le-moi, dis-moi tout.
C'était mon combat de l'année 2023. Je suis passée par plein de phases et je pense que c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. C'est pas aussi simple que parce que je suis indépendante et que je réussis, alors je vais avoir du mal à trouver quelqu'un parce qu'aujourd'hui, les hommes sont des pauvres fiottes qui peuvent pas accepter une femme indépendante qui réussit. Généralement, c'est ça un petit peu le discours que j'entends autour de moi et en fait, c'est tellement plus complexe que ça. Pour partager un petit peu mon expérience et petit disclaimer pour toutes les auditrices, c'est vraiment mon expérience et j'ai conscience que chacune est unique en termes d'histoire de vie. Et peut-être que beaucoup d'entre vous, vous serez plus avancés que moi. Et peut-être que certains d'entre vous, je vais pouvoir vous aider dans votre réflexion. Mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé à vouloir redater il y a un an, après 6 ans de célibat, 6 ans pendant lesquels je me suis dédiée à la construction de mon business tel qu'il est aujourd'hui, je pensais sincèrement que ma réussite professionnelle et ma réussite financière, c'était mes meilleurs atouts en dating. Parce que ça montrait que j'avais pas besoin d'un mec, que je n'allais pas être un poids mort, que je n'allais pas être une charge, que je pouvais m'occuper de moi-même et qu'en gros, du coup, j'allais être trop bien, que ça allait être trop bien d'être avec moi, etc. Très vite, je me suis pris une énorme, énorme douche froide et j'ai fait des tests, INSAF, parce que je suis une entrepreneuse, donc je processise les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je m'étais fixée, ça faisait 6 ans hein, que j'étais célibataire, donc pour moi, et avant ça, j'avais une relation de 6 ans, donc en fait, ça faisait 12 ans que je n'avais pas daté. Donc, pour moi, c'était un nouvel univers. J'étais une femme complètement différente d'il y a 12 ans. Donc, je m'étais dit, OK, on va processiser le truc. On va faire 50 dates en 6 mois pour faire une étude de marché géante, quoi. Tu vois?
Cette femme est folle.
Je suis une... Non, mais franchement, je suis une psychopathe. Je le sais, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de penser que je suis une psychopathe. Alors, est-ce que je conseillerais à tout le monde de faire ça? Absolument pas. Est-ce que je le regrette? Oui et non, parce que ça m'a quand même beaucoup apporté. Bref, du coup... Je commence à faire ma série de dates et très très vite je déchante en me rendant compte que ce que je pensais être mon meilleur atout est en fait mon pire inconvénient. Et que quand j'arrive et que je mets sur la table ma réussite financière, même si bah forcément je dis pas de nombre, je dis pas de chiffres, mais ça se sent quand tu débarques, que tu poses ton sac à main Yves Saint Laurent sur la table ou que tu donnes rendez-vous à quelqu'un dans un palace 5 étoiles, dans le bar d'un palace, ça envoie des signes, tu vois. Donc je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait peur. Et que c'était parce que ces personnes-là, enfin, en tout cas, les personnes que je datais recherchaient, et que les seuls mecs qui donnaient suite et qui demandaient un deuxième, un troisième date derrière, c'était des personnes qui étaient plus dans une énergie, moi, ce que j'appelle une énergie féminine, une énergie yin, c'est pour ceux qui sont un peu familiers avec ces principes-là, et plus de quelque chose de se laisser porter. Là où moi, j'en cherchais quelqu'un qui était dans une énergie plutôt yang, plutôt masculine, qui pouvait être là pour me soutenir parce que je me disais, moi, je suis tellement en train d'être dans l'action, dans la proactivité dans ma carrière que quand je suis en couple, j'ai envie d'être plus dans une énergie yin. J'ai besoin de cette balance dans ma vie et j'ai besoin de quelqu'un, pas en mode cliché qui s'occupe de moi et je suis une pauvre petite chose fragile, quoi, mais j'ai besoin d'un partenaire, j'ai besoin de quelqu'un qui me soutient, j'ai besoin de pouvoir me reposer sur quelqu'un. Voilà, pour contrebalancer tout ce que je fais dans la journée dans mon business. Et en fait, toutes les personnes qui restaient, au début de mes dates, c'était des personnes bah, qui étaient à l'opposé de ce que j'en cherchais. Et donc, au bout d'un moment, je commence à me renseigner sur le sujet. Je fais attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Et là, je lis cette phrase, je ne sais plus si c'était dans un TikTok, dans un bouquin ou quoi que ce soit, qui dit si vous attirez toujours le même type d'homme, cherchez le dénominateur commun. Pouf, la petite claque dans la figure. Je me dis ok, c'est moi le dénominateur commun, c'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et là, je me rends compte que ben, les hommes, souvent, ils ont soit peur d'une femme qui réussit, d'une femme qui est trop indépendante, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas être utiles, qu'ils n'ont pas grand-chose à apporter, ou alors que ce n'est pas l'énergie que moi je recherchais. Et donc là, j'ai entamé tout un travail sur moi-même, de comment est-ce que je suis complètement moi-même. L'idée, ce n'est pas de me grimer, ce n'est pas de me minimiser, ce n'est pas de me faire passer pour ce que je ne suis pas, ce n'est pas de me changer, ce n'est pas d'aller à contrario de ma nature, mais sans pour autant repousser le type d'homme que j'aimerais attirer, tu vois. Et donc là, c'était un vrai travail. Il s'est transformé en un travail de développement personnel qui m'a un peu transformé pendant cette année 2023. Ce travail, je l'ai fait à travers ce prisme des énergies masculines et féminines, parce que c'est un concept yin et yang, qui est un concept qui, moi, me parle beaucoup, mais il y a plein d'autres manières de faire ce travail-là. Moi, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Donc, tout mon travail, ça a été de, malgré l'énergie très yang que j'ai dans le business, l'énergie très yang qui est représentée par la réussite, l'argent, etc., comment est-ce que j'incarne de plus en plus mon énergie yin, tout particulièrement dans ma vie sentimentale, pendant mes dates, etc., pour attirer le yang que j'ai besoin d'avoir et envie d'avoir en face.
C'était hyper clair et c'est hyper intéressant. Et d'autant plus intéressant que moi, personnellement, ça me parle. J'espère que ça parlera aux auditrices et aux auditeurs aussi. Moi, je suis hyper familière avec les sujets d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que, en fait, avant de rencontrer mon mari, j'ai entamé le même travail que toi. Et en fait, je pense que j'ai trouvé mon mari parce que j'étais dans ce travail-là et que j'avais, je ne sais pas si j'avais, je ne pense pas qu'on finit d'accomplir un travail. Je pense qu'on évolue toute notre vie sur un sujet. Mais en tout cas, je pense que j'ai rencontré mon mari à ce moment-là parce que j'étais mûre pour rencontrer ce type de personne. Et en fait, moi, ce que j'ai appris dans mon cheminement, c'est que, et c'est pour ça que je dis tout à l'heure en rigolant, j'ai dit cette femme est folle, mais en tout cas, tu me fais tellement penser à moi à l'époque, parce qu'en fait...
C'est un beau compliment. Moi, si je peux
Oh, bah,
être
t'es
tout comme
gentille,
toi, t'étais
merci.
avant.
Oh, bah, merci, c'est hyper gentil. En tout cas, tu me fais beaucoup penser à moi, parce qu'à l'époque, j'essayais de dupliquer des principes, de carrière, parce que je n'avais pas de business à l'époque, mais très dans l'énergie. En fait, j'essayais de trouver la mécanique du succès. De manière hyper rationnelle, parce que moi je suis quelqu'un de très rationnel. Et du coup, c'est très énergie masculine tout ça. Donc j'essayais de trouver la rationalité là où c'était plutôt du lâcher prise. Et donc il fallait que j'arrête de il fallait que j'arrête d'essayer de faire et que je sois plutôt dans l'être pour trouver mon mari. J'ai peur de perdre les gens. Donc si tu es OK, est-ce que tu peux nous partager, parce que ça me ferait, enfin ça m'intéresse de l'écouter, enfin de l'entendre de ta bouche, est-ce que tu peux nous partager les définitions d'énergie féminine et d'énergie masculine pour justement qu'on ne perde pas les gens et qu'on voilà, on élève le débat toutes les deux.
Parfait, avec grand plaisir. Alors, encore une fois, c'est quelque chose, vous pouvez, là je m'adresse à vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous reconnaître ou pas, être d'accord ou pas. La porte est ouverte pour tous, c'est une manière de voir le monde et une manière de voir les relations. Le concept d'énergie masculine-féminine, que j'ai plutôt appelé énergie yin et yang, parce que tout le monde voit le yin et le yang, c'est le concept de dire que chacun d'entre nous a en soi, en lui, deux énergies. Une énergie yin, qui est associée à l'énergie féminine, qui est l'énergie d'être. Être. La créativité, la pensée, l'imagination, l'intuition, le laisser faire, l'incarnation et la limite, le fait de mettre un cadre. Et il y a l'énergie yang qui est associée à l'énergie masculine, qui est l'énergie de faire, qui est l'énergie d'action, qui est l'énergie de foncer, qui est l'énergie d'accomplir, qui est l'énergie de concrétiser, etc. Donc d'un côté, on a l'être et de l'autre côté, on a le faire. Et chacun d'entre nous, homme ou femme, non binaire, non genré, tout ce que vous voulez, on a ces deux énergies en nous. Mais dans les relations qu'on construit, et tout particulièrement dans les relations sentimentales, il y a des équilibres qui vont se faire entre les énergies quand l'un va plus incarner une énergie que l'autre. Et tout ce qui est, enfin tout l'enjeu et toute la beauté des relations et spécialement des relations amoureuses, c'est de d'avoir cet équilibre entre qui incarne plus l'énergie féminine yin, qui est-ce qui incarne plus l'énergie masculine yang. Alors il y a des concepts et des mouvements de pensée qui disent que c'est l'homme qui devrait incarner le yang et la femme qui devrait incarner le yin. Des fois, c'est inversé et c'est OK, chacun a l'équilibre qu'il souhaite avoir. Après, moi, je suis une femme qui, dans sa vie sentimentale, a envie et a besoin d'être dans son énergie yin. J'ai envie de ça parce que je suis trop dans le yang dans le business et j'ai besoin de l'être et c'est normal et j'aime l'être. Mais pour avoir un équilibre dans ma vie personnelle, j'ai besoin d'être en yin. Donc, ça veut dire qu'en face, je recherche quelqu'un qui est plutôt dans son yang. Voilà, c'est la relation de cause à effet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des shifts d'énergie entre nous deux. Ça ne veut pas dire que je vais être une petite demoiselle en détresse qu'il va falloir sauver. Ça ne veut pas dire qu'il y a certains moments, mon homme ne pourrait pas être dans son yin et moi dans le yang. C'est aussi une histoire de transfert et de balance. Mais il y a quand même une intention dans ce que je recherche et dans ce dont je sais avoir besoin. Voilà, je m'arrête là dans les explications. Est-ce que c'était clair?
Ah, c'était hyper clair et je te remercie parce que c'est hyper compliqué. En fait, c'est pas compliqué à comprendre, mais c'est compliqué à verbaliser et à vulgariser plutôt. Parce que quand tu veux vulgariser le truc, c'est compliqué parce que tu sais pas d'où viennent les auditeurs et surtout quand je dis d'où viennent, mais où ils se positionnent par rapport à ces concepts. Est-ce qu'ils en sont très loin ou est-ce qu'ils les connaissent et qu'ils en sont proches, etc. Ça me permet de revenir à ma question. Est-ce que, parce que quelque part, il y a quelque chose de très patriarcal dans ce que tu dis.
Oui.
Est-ce que du coup, ça veut dire que quand tu es puissante financièrement, tu es obligée de mettre une croix sur... Et je te pose cette question. Attends, gros disclaimer avant d'y aller. Je te pose cette question parce que je suis sûre que je vais avoir ce type de retour.
OK.
Et c'est vraiment pour couper l'herbe sous le pied à ceux qui vont le faire ou celles qui vont faire ce type de retour. Être puissante financièrement, du coup, on est d'accord, Aline, ça ne veut pas dire du tout que tu es condamnée à être seule ou à avoir des mecs qui vont se reposer sur toi en mode passager clandestin. On est d'accord.
Oui, être puissante financièrement, ce n'est pas être enfermée à vie dans une énergie yang et à devoir être l'homme du couple.
Voilà, merci. Et donc, on est d'accord parce que, et je pense que c'est important aussi de le verbaliser tout ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont revenir en disant, mais attends, INSAF, on comprend pas, Aline non plus, on comprend pas. Nous, dans cet épisode, on a cru comprendre qu'au final, vous disiez que bah, si tu voulais être puissante financièrement, tu devais mettre une croix sur une vie privée équilibrée. Et c'est pas du tout le cas, on est d'accord. En fait, ce qu'on est en train de dire avec Aline, c'est que tu peux être puissante financièrement, mais tu peux aussi, dans ta vie privée, essayer pas vouloir tout driver. Et te reposer sur, en tout cas, rechercher quelqu'un qui drive, pas qui drive toute ta vie privée, parce que c'est jamais la question. On n'a jamais quelqu'un qui est tout le temps aux commandes, mais en tout cas, quelqu'un qui est aux manettes et où tu peux te reposer, sur lequel tu peux poser ta tête, tu peux poser ta tête sur son épaule dans ta vie privée.
Et du coup, effectivement, pour reboucler sur ce qu'on disait, il faut distinguer deux choses. En fait, il ne faut pas faire d'amalgame en disant parce que je suis une femme qui réussit et qui gagne beaucoup d'argent, ça veut dire que je suis dans une énergie yang, ou en tout cas, c'est-à-dire que je fais fuir les hommes et que j'intimide les hommes, etc. Je pense que là, c'est à chacune d'entre nous de se responsabiliser entre il y a les faits et il y a comment je me comporte avec les faits. Parce qu'en fait, ce qui va repousser les hommes, ou ce qui va, enfin, en tout cas, certains types d'hommes, ou ce qui va nous tirer une balle dans le pied pour l'avoir vécu de mon expérience personnelle, c'est pas la manière, c'est pas le fait en soi, c'est la manière dont je le présente. Quand tu arrives et que tu mets les poings sur la table et que tu tapes très fort dessus en disant je suis une femme indépendante qui réussit, qui a de l'argent, t'as pas besoin de me tenir la porte, t'as pas besoin de faire ci, j'ai pas besoin de toi dans ma vie, si je te choisis, c'est parce que je le veux bien et entre guillemets marche ou crève, bien évidemment que la personne elle se barre. Ça n'a rien à voir avec ton argent, ça n'a rien à voir avec ton indépendance. Et après, toi, tu vas dire, ah, mais non, parce que je suis trop indépendante, ça leur a fait peur, etc. Mais c'est ton comportement, c'est la manière dont tu l'as amené sur la table. Et on peut être une femme indépendante qui réussit, qui n'a, sur le papier, pas besoin d'homme, mais être complètement décomplexée par rapport à ça, accepter d'être dans l'énergie qui nous convient, quelle qu'elle soit, yin, yang, autre, pour celles qui ne se regretteraient pas dans ces principes-là. Et en fait, que ce soit OK. Et une fois que j'ai, en fait, je sais qu'une fois que moi j'ai compris ces principes-là, une fois que j'ai travaillé sur le être et pas sur le faire, sur le incarner qui je suis en tant que femme et non pas montrer et démontrer et prouver qui je suis en tant qu'entrepreneuse, mais c'est là en fait où j'ai commencé vraiment à rencontrer des profils qualitatifs et des hommes qui aujourd'hui, déjà il y en a qui gagnaient plus que moi, hein, qu'on se le dise, il y en a qui étaient pas du tout impressionnés par ce que je faisais en business, voire même qui trouvaient ça, c'est pas un peu ridicule, mais tu vois, j'ai fait des dates avec des salariés qui avaient des salaires à 150, 200K l'année. Ou pour moi, c'était un gentil petit business, quoi. Tu vois ce que j'avais? Enfin, en fait, c'est plus une question de comportement de chacune et de manière dont on présente les choses, plutôt que d'y aller avec le couteau et le drapeau, là, et puis après de se plaindre que personne ne veut de nous, quoi.
Ouais, merci pour cette précision, Aline, parce que c'est hyper important et je suis complètement d'accord avec toi. Juste pour terminer sur ce sujet, parce que je pense que c'est intéressant pour les gens qui s'y intéressent d'avoir, de connaître chez qui on s'est formé. Moi, j'adore Mélanie Hanleyer et j'ai suivi une masterclass qui s'appelle Balance avec elle. Je pense qu'elle la propose encore, qui est hyper intéressante sur le sujet, qui parle des énergies masculines et féminines et comment les équilibrer, donc les contrebalancer. Et du coup, je serais intéressée de savoir où tu t'es formée ou en tout cas comment, auprès de qui t'as appris, toi, tous ces concepts-là, Aline.
Auprès d'un grand sage du 21e siècle qui s'appelle TikTok. Non, pour de vrai en plus. Non, par contre. Elle rigole, mais je te jure, c'est vrai, j'ai consommé beaucoup de contenu. Enfin, après, j'ai pas mal bouquiné, donc c'est plus une somme d'apprentissage et de leçons plutôt que une personne en particulier. Par contre, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup écouté, avec qui j'ai beaucoup échangé, avec Chloé Bloom, donc,
Intéressant.
qui fait beaucoup de développement personnel, qui a une formation aussi là-dessus, qui est très, très, très bien faite, très, très bien foutue. Donc, si vous avez envie d'avoir une seule ressource, vous avez bah, la masterclass de INSAF ou le travail de Chloé Bloom, qui est très pertinent, je trouve, sur le sujet.
Ah, intéressant parce que moi, ça m'intéresse encore beaucoup ce type de sujet, donc j'irai regarder ce que fait Chloé Bloom.
Enfin, tout ça pour vous dire, ce n'est pas parce qu'on est indépendante et qu'on réussit qu'on ne peut pas rencontrer d'hommes. C'est juste qu'il faut faire attention à la manière dont on se présente à eux, quoi.
Bah, complètement d'accord. Et puis la preuve, hein, moi je suis indépendante, je réussis autant dans le salariat que dans l'entrepreneuriat et j'ai l'homme le plus merveilleux dans ma vie qui est loin
Et puis
d'être.
c'est pas une carpette où tu as l'impression d'être l'homme du couple et de tout
Ah non,
faire.
ça je peux te dire que c'est tout sauf une carpette. Je suis
Voilà.
de ouf. Non mais tu vois, voilà, c'est un homme libre.
Oui,
Bref.
non, mais je veux dire, c'est un vrai homme qui incarne
Ouais,
l'énergie
ouais.
masculine que tu lui recherchais, et c'est OK, quoi. Tu lui as pas fait peur et tu l'as pas
Ah non.
émasculé au passage. Voilà.
Non, et puis surtout, il me laisserait jamais le faire, tu vois. Enfin, tu peux essayer, mais ça ne veut pas dire que tu vas y arriver, quoi. Et c'est ça aussi qui, je trouve, c'est ça aussi qui m'avait attiré. C'était de me dire que je trouvais quelqu'un qui me tenait tête et qui n'était pas impressionné par combien je gagnais, comment je parlais, ma formation, mes activités, etc. Et qui sentait complètement mon égal, quoi. C'est surtout ça qui m'a plu et qui avait énormément confiance en lui. Et au final, on en revient toujours à la même chose, à la confiance en soi.
Des autres et de soi-même, ouais.
J'aurais encore tellement de questions à te poser sur le sujet, mais j'en ai d'autres aussi qui pourraient intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Et notamment sur ta manière de gérer l'argent. Notamment, j'ai une question. Ce que j'aime bien poser comme question, et ce que j'aimerais mettre en lumière dans cette saison, c'est aussi la manière dont, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, tout à l'heure, tu as dit que le fait d'avoir de l'argent révélait des facettes de ta personnalité, des traits de caractère. Et en fait, finalement, c'est juste un révélateur.
Oui.
Comme on peut trouver des révélateurs de couleurs, et ça révèle des couleurs de ta personnalité. Et en fait, j'écoute souvent, enfin, j'entends souvent, surtout en ce moment, beaucoup de personnes qui ont des théories sur la richesse et qui disent, ben, les gens qui réussissent financièrement, les gens qui sont riches financièrement, parce que tu peux évidemment être riche de différentes manières, c'est des gens qui sont obsédés par le fait de ne pas dépenser. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Soit dans les réels, soit dans les TikTok, soit dans sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui passe en boucle. Et en fait, moi, j'ai envie de dire que pas du tout. Les gens qui réussissent financièrement, c'est des gens qui savent redistribuer l'argent correctement. Et j'aurais voulu avoir ton opinion sur le sujet parce que tu es une personne qui brasse quand même beaucoup d'argent. Donc je suis intéressée de savoir comment une entrepreneur à 7 chiffres, quelle est la relation qu'une entrepreneur à 7 chiffres a avec l'argent?
Il y a plein de choses à dire. La première, c'est effectivement, moi, je suis convaincue que l'argent ne fait que révéler certains traits, pardon, de ta personnalité, mais qui étaient déjà là avant. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui, du jour au lendemain, vont gagner énormément d'argent, mais qui ne vont pas du tout changer parce qu'ils seront OK et que pour eux, ça ne définira pas qui ils sont. Et j'espère en faire partie. J'ai pas l'impression d'avoir pris la grosse tête. Tu me croises dans la rue, j'ai pas l'impression de faire un étalage de richesse non plus. Je suis aussi bien à l'aise dans un 5 étoiles que partir avec le sac à dos et la tente en bivouac avec mes potes et tout. Enfin, je suis encore en train de courir après les vaches dans le champ de la ferme de mes parents quand ils ont besoin de moi. Tu vois, je suis pas en mode ah non, je ne vais plus courir dans la gadoue, tu vois. Enfin, en fait, je pense que si tu as une relation saine à toi-même et à l'argent dès le début, le fait d'en avoir plus ou moins, ça va pas changer grand-chose. Ça change ton rythme de vie. Mais pas plus que ça. Et les personnes qui deviennent hyper radines, ou au contraire hyper dépensières ou hyper hautaines, en fait, quelque part, c'est que c'est des traits de caractère qui étaient déjà là, simplement qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer parce qu'il n'y avait pas les ressources financières derrière. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, après, il y a la manière dont on gère l'argent. Pour tout de suite dédramatiser les choses, effectivement, il y a des gens qui se transforment un peu en radins, etc. Mais ça, encore une fois, pour moi, c'est un révélateur de ce qu'il y avait déjà. Au fond, pour te dire, moi, je ne gère pas mon argent, en fait. Je ne sais même pas exactement combien je dépense par mois. Enfin, je sais combien je gagne parce que c'est un montant fixe, mais à part ça, je ne sais pas vraiment combien je dépense. Je suis un petit peu plus rigoureuse sur les finances de mon entreprise, bah, parce qu'il n'y a pas que moi qui suis concernée. Tu vois, il y a les salariés, il y a les prestataires, bah, il y a l'URSSAF, il y a le fisc, enfin, il y a les impôts, les choses comme ça. Mais à titre perso, je ne regarde pas vraiment parce que je suis plus concentrée sur la richesse que je peux générer que sur vraiment ce que je dépense et comment je dépense. Et je me dis que tu peux toujours. Faut choisir où mettre ton focus. Est-ce que tu mets ton focus sur optimiser le moindre centime existant et avoir une politique assez conservatrice? Ou est-ce que tu vas avoir une politique d'expansion, d'innovation et de croissance et te dire, bah, je vais pas être là en train d'économiser le moindre petit centime, mais plutôt aller chercher, bah, c'est quoi le next big move que je peux avoir pour gagner encore plus? Donc ça, c'est le premier élément que je pouvais ajouter. Et le second, c'est aussi la capacité à redistribuer ta richesse. Sans partir dans des aspects perchés, spirituels, d'énergie, de machin, truc comme ça, mais juste fonctionner au bon sens, de te dire, quand tu gagnes de l'argent, c'est normal d'en redonner et d'en redistribuer. Et moi, j'étais élevée dans une famille très catholique, avec une vraie dimension de venir en aide à autrui. Et je me souviens, quand j'ai fait mon premier million et que j'ai appelé mes parents pour leur dire, papa, maman, j'ai fait mon premier million et tout, mon père était en mode, ouais, c'est bien, ma fille. La première chose que ma mère m'a dit, c'est comment tu vas utiliser cette richesse pour aider ton prochain? Alors moi, je suis en mode, mais maman, je suis ma propre œuvre de charité, laisse-moi tranquille, tu vois. Je vais m'offrir un joli sac à main. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, c'est aussi là pour redistribuer. Alors, on contribue via nos impôts, on contribue via plein de choses. Mais moi, du coup, je fonctionne aussi au bon sens. Et j'ai une anecdote très précise que je t'ai partagée juste avant qu'on commence cet enregistrement de podcast, qui est de, on a une entreprise qui brasse. Et la dernière salariée que j'ai employée, ses prétentions salariales, c'était du SMIC. Et en fait, moi, je lui ai dit, non, je ne peux pas te payer au SMIC dans une entreprise qui gagne autant d'argent. Ce n'est pas logique, ce n'est pas du bon sens. Et donc, j'ai direct haussé son net de 200 euros par mois pour un début de poste, parce que je considérais que ce n'était pas normal, pas logique et pas du bon sens qu'elle soit aussi peu payée, entre gros guillemets, VS, le chiffre d'entreprise fait qu'on faisait chaque année, quoi. Donc, pour moi, c'est juste du respect de l'autre et du fonctionnement au bon sens.
C'est hyper. Bah, merci de le dire, en fait, Aline, parce que moi, ce sujet, il me touche beaucoup. Il me touche parce que je coach des salariés tous les jours, hein, et je me rends compte que c'est des salariés, en général, qui apportent énormément de richesses humaines et économiques à l'entreprise et qu'on ne reconnaît pas ça, on ne redistribue pas aussi équitablement. Ils n'ont pas accès à une juste part du gâteau et je trouve aussi que. Plus tu es dans une entreprise à taille humaine, et plus ça devrait faire du bon sens. Et il y a quelques entreprises qui sont à taille humaine, des TPE, des PME, qui sont en mode après moi le déluge, quoi. En gros, toi, tu es là pour bosser, mais tu as participé toute l'année à générer le bénéfice que moi je touche, mais je vais à aucun moment le redistribuer équitablement avec toi. Et pour moi, on est vraiment ce statement-là de dire pour devenir riche, il faut être obsédé par le fait de dépenser le moins possible, pour moi, c'est vraiment du pire capitalisme et le pire du capitalisme. C'est le pi pur et le pire du capitalisme. Parce que, tu vois, moi, je trouve qu'aussi le fait d'avoir de l'argent, comme on disait tout à l'heure, c'est une énergie. Et l'énergie, ça circule. Et quand tu es quelqu'un ou tu es un, comme on dit en anglais, a good steward to your money. Bah, au final, tu arrives à gérer ton argent pour toi, pour ton entreprise, etc. Et tu arrives aussi à redistribuer correctement aux gens sans être obligé de faire des dons à des associations, etc. Si déjà tu payes correctement ta femme de ménage. Tu vois, moi, par exemple, ma femme de ménage, elle est arrivée, elle m'a dit, ouais, je prends que 11 euros de l'heure. Je lui ai dit, non, moi, il est hors de question que je te paye en tout 15 euros de l'heure. Les gens qui travaillent avec moi, tu pourras la poser la question et tu en connais beaucoup. Les gens qui travaillent avec moi, je les paye tout le temps correctement. Il est hors de question que je mette du temps à les payer, que je négocie à la baisse. Pourtant, je suis une queen de la négo, je pourrais y aller, hein. Je pourrais y aller essayer de tirer vers leur bas leur tarif au max. Et ben non, je les paye correctement, je les paye rubis sur ongle. Et même les gens, parce que tu connais très bien ma collaboratrice, Solène, que je salue et que j'embrasse. Enfin, quand à la fin de l'année, on fait un bon chiffre, enfin voilà, je lui redistribue une part du gâteau. Et pour moi, c'est normal, enfin, à la hauteur de mes moyens. Et ce que j'aimerais aussi donner comme envoyer comme message, et je suis hyper contente que tu puisses me backer là-dessus, Aline, c'est que. En fait, plus tu vas gagner de l'argent et plus tu vas en redistribuer correctement et plus tu vas en faire, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des calculs d'apothicaire et des calculs court-termistes en disant, ouais, mais si je paye moins mes salariés ou si je leur mets freelance ou si je gagne 200 balles ici, 100 balles là et 300 balles là-bas, je vais être de plus en plus riche. Mais en réalité, les bons éléments partent. Il ne reste pas. Et tu perds ton temps, ton énergie et ton argent à essayer de retrouver des gens qui ne feront pas la moitié de la qualité du travail que de ce que faisaient les gens qui travaillaient pour toi. Donc, qui feront moitié moins bien de ce que les gens faisaient pour toi. Donc ouais, pour ceux, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, on est d'accord avec Aline, payez bien et payez justement vos salariés et vos freelances parce que c'est grâce à eux que vous en êtes là où vous en êtes aussi.
Et je pense qu'il faut vraiment distinguer, ça s'adresse à tous, hein, entrepreneurs ou salariés, l'intelligence d'économie, d'aller gratter le petit moindre sou, etc., et aussi l'intelligence d'investissement. Quand tu investis dans ta femme de ménage en la payant plus, elle va te faire un meilleur travail, elle ne te lâchera pas, elle ne sera pas en retard, elle sera là pour te dépanner si à un moment tu as besoin de changer les horaires ou d'avoir des horaires en plus, etc. Et elle va apporter un care particulier. Quand tu as l'intelligence d'investir dans un salaire de ton salarié plus que ce qu'il demande, tu à sa loyauté, tu as sa performance. Enfin, et tu vois, c'est plus voir les choses comme des investissements. On n'est pas là pour dire je suis là pour en retirer un maximum, mais ouais, c'est pour moi, c'est de la bonne intelligence en fait.
Je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai que pour aller vraiment au bout de la question, il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais en fait, quand tu es trop gentil, tu te fais avoir. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait avoir, Aline?
Alors, certainement, je me suis déjà fait avoir sur des trucs, hein. Financièrement, au niveau de l'argent.
Que tu t'es déjà fait arnaquer? Est-ce que tu t'es
Non.
rendu compte qu'il y a un prestataire qui, voilà, un prestataire, une salariée peu importe, tu vois, quelqu'un qui avait enfin voilà, qui avait profité du fait que tu étais plutôt généreuse.
Alors non. Et puis j'ai même pas vraiment d'exemple flagrant en tête de gens qui ont testé. Après, je pense que Je suis aussi un petit peu vigilante hein, sur enfin mon process de recrutement, c'est le FBI. Je suis très très attentive au profil, je fais passer des tests de personnalité. Je m'estime aussi être relativement assez bonne pour cerner les gens. Donc je cerne les gens qui sont là parce que c'est des conditions de travail idéales et que c'est trop bien, etc. Plus que qui sont vraiment animés par les missions et les valeurs de l'entreprise. Et les gens avec qui je bosse, c'est des gens qui sont là parce qu'ils aiment ce qu'on fait, parce qu'ils aiment nos clients, parce qu'ils aiment les valeurs de l'entreprise et que c'est quelque chose qui les drive et ils sont pas là que pour l'argent. Donc ça, je pense que j'arrive en tout cas à les détecter assez rapidement. Après, je dis pas que je me suis jamais fait avoir ou qu'il y a jamais de gens qui ont testé, mais j'ai pas d'exemple en tête où je me suis dit, oh putain, je me suis fait avoir comme une bleue, quoi. Désolée, j'ai juré.
T'inquiète, t'inquiète. Je parle, enfin des fois, je suis une véritable poissonnière moi-même. Pour terminer, Aline, je serais super intéressée de savoir quels sont tes rôles modèles féminins de manière globale et quels sont tes rôles modèles en termes de business et de succès financier.
Je pense qu'il y en a plein. Je pense que ça change beaucoup en fonction de bah, quel cycle de ma vie je suis, quelles sont mes priorités du moment, etc. Une qui a pas beaucoup changé, même deux qui n'ont pas beaucoup changé depuis le début, c'est deux entrepreneuses côté US qui incarnent à la fois la réussite financière, à la fois la réussite business et à la fois les valeurs et la gentillesse que moi je cherche aussi à atteindre de mon côté. Donc c'est Marie Forleo et Amy Porterfield. Donc voilà, ça c'est ces deux personnes-là. Et après, en termes de rôle modèle financier, je ne sais pas si j'en ai aujourd'hui où je me dis je vais être exactement comme cette personne. Par contre, je reviens, ça fait très cheesy de dire ça, mais regardez ce que mon père entrepreneur a fait, qui est hyper inspirant parce qu'on parle quand même d'un entrepreneur qui a monté une boîte de zéro, une boîte qui avait des centaines de salariés dans le monde entier, qui avait plein de filiales dans le monde entier, qui a fait sa propre introduction en bourse pour ensuite revendre son entreprise. Donc on n'est pas sûr. Un petit business, et je dis petit à l'échelle de ce que je peux faire aujourd'hui, et le regarder aujourd'hui comme l'argent qu'il a ou qu'il n'a pas, je ne sais même pas combien d'argent il a, il n'en parle jamais. Et en fait, quand il vit, il fait le jardin, il retape une baraque, il fait de l'accueil de pèlerins l'été, puis l'hiver, il vit sa best life, quoi. Et en fait, c'est une vie qui est tellement simple et je n'ai pas vu de changement en termes de posture, en termes d'arrogance, en termes de rythme de vie plus flagrant que ça. Et en fait, ça m'inspire beaucoup. Et c'est pour ça que j'avais tout ce discours de dire, en fait, l'argent nous change que si on avait déjà le terrain pour être changé de base, quoi.
Bah écoute, merci vraiment pour ces mots de la fin, Aline, et ce rôle modèle hyper inspirant qui est ton papa, comme quoi nos papas, c'est vraiment nos plus beaux modèles. Hein. Moi, j'ai mon père
Souvent, ouais.
aussi, c'est un super rôle modèle pour moi. Mais bon, comme quoi, voilà, les pères jouent vraiment un rôle très important dans l'éducation des jeunes filles. Donc, messieurs les papas, si vous nous écoutez, prenez votre rôle à cœur quand il s'agit d'éduquer votre fille et de montrer l'exemple.
Même les parents de manière générale, hein,
Ouais, c'est vrai, les parents de manière
ce que vous
générale.
incarnez dans votre relation à l'argent et la manière dont vous voyez l'argent vis-à-vis de vos enfants vont faire l'éponge de ça. Si vous diabolisez l'argent, votre enfant va diaboliser l'argent.
Ouais, carrément. Et tu vois, au final, toi, tu es un super mix parce que tu as cette super belle énergie avec ta mère qui est salariée, qui t'a montré aussi ce que c'était le salariat, qui t'a permis aussi de choisir et pas de faire, voilà, de faire de fausses idées. Qui a été une fenêtre sur le salariat, qui t'a permis de décider d'y aller ou pas, et qui est hyper tournée vers son prochain, qui te permet toi aussi d'être tournée vers ton prochain, sans oublier que voilà, là où tu trouves ton bonheur, c'est dans l'entrepreneuriat et le fait de monter encore plus haut dans le game et de voir jusqu'où tu peux aller. Et je te souhaite franchement, Aline, d'aller encore plus haut, parce que moi, ben, c'est très sincère, tu m'inspires beaucoup, et j'adore ce côté pirate que moi aussi j'ai, à un autre niveau, mais que je kiffe du coup, quand je le vois chez les autres.
Et tu m'inspires beaucoup, Insaf. Et puis franchement, merci pour tout ce que tu fais, pour toutes les femmes, la manière dont tu les aides et tout. Enfin, c'est grâce à toi que les choses bougent et évoluent dans notre société. Donc, bravo à toi aussi.
Oh là là, trop cool. Aline, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle quand même de quelque chose qui me tient à cœur parce que voilà, c'est vraiment ton actualité, c'est le rachat de Positadem. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous donner les next steps de ce rachat et comment les gens puissent voilà, se tourner vers toi et sur la nouvelle version de Positadem s'ils en ont besoin?
Tout à fait, avec plaisir et merci de me donner la parole là-dessus parce que ça va être doublement pertinent, je pense, en fonction du sujet et tout. Donc, effectivement, je suis en train de passer un nouveau cap de ma vie entrepreneuriale. C'est qu'aujourd'hui, j'ai monté un business, j'ai développé un business. On en a parlé depuis le début de cet épisode. Mais aujourd'hui, je suis en train de racheter un autre business qui va devenir ma seconde entreprise. Voilà, donc certaines personnes ont plusieurs enfants et moi, maintenant, je vais avoir plusieurs entreprises. qui vont être un petit peu mes bébés aussi quelque part. Et l'entreprise que je rachète s'appelle Postadem, qui est une entreprise en fait qui accompagne les salariés à se reconvertir, soit vers le salariat en négociant une mobilité interne ou externe, en négociant leurs indemnités de départ par exemple, vu qu'on parle d'argent, soit, et ça c'est un gros segment qui est développé par cette entreprise, comment est-ce que je pose madame du salariat pour me reconvertir vers l'entrepreneuriat, comment je trouve mon projet de business, comment je monte mon projet de business avant de quitter mon salariat, le temps d'être sûr que ça fonctionne et tout. Voilà, toutes ces stratégies-là. Ce qui fait totalement sens avec moi, ce que j'ai commencé à développer, vu que moi, je récupère les gens juste après, c'est-à-dire quand ils ont enfin quitté leur salariat et qu'ils viennent de se lancer, où là, je peux les accompagner dans le développement de leur business. Donc voilà, je suis en train de racheter cette entreprise-là. Peut-être qu'au moment où l'épisode de ce podcast sortira, ce sera acte fait, que j'aurai déjà la mainmise sur l'entreprise en question. Mais c'est une très belle aventure humaine, très belle aventure entrepreneuriale, business, plein de défis. Voilà.
Eh bien, écoute, je suis sûre que ce sera une aventure qui t'apportera énormément de choses et qui sera un véritable succès. En tout cas, go checker Postadem pour tous ceux que ça intéresse. Je connaissais pas l'entreprise avant, mais maintenant que je sais que tu es aux commandes, je suis certaine que ça va être du feu de Dieu.
Merci pour ton soutien, Insab, ça me touche beaucoup.
Aline, ça a été un véritable plaisir de te recevoir. Je tiens quand même encore une fois à te remercier, sans faire la japonaise, hein, mais tout de même te remercier. Bah, pour tes échanges et tes partages qui ont été emplis de sincérité, d'authenticité. C'est rafraîchissant et ça fait du bien de t'entendre. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, ils peuvent te retrouver à travers ton compte Instagram, @TheBeBoost. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver aussi, Aline?
Eh ben, on va rester simple, Instagram très bien, ou alors depuis très peu de temps, je débarque sur LinkedIn, donc vous pouvez me retrouver sous le nom Aline Bartoli, Bartoli, comme ça se prononce. Et puis voilà, de là, vous allez retrouver tout le reste, si ça vous intéresse.
Super, donc vous avez compris, Aline Bartoli sur LinkedIn, sinon Instagram, @TheBeBoost. Aline, ça a été un plaisir, encore merci et à très bientôt.
Merci à toi, Ensef, et puis merci à tous les auditeurs.
Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.